Effectivement, je vais vous présenter un travail qui fait partie de ma recherche doctorale. Donc, c'est aussi une recherche qui est en cours, je suis en deuxième année de thèse. Et je ne suis pas spécialiste de la sociologie de la religion. Moi, je suis entrée par la sociologie du logement et la sociologie des migrations. Donc je suis ouverte à toute critique et à tout conseil par rapport à mon travail, qui, je répète, donc on rangeait les couteaux, est en cours de formation. Donc il n'y a pas de... Donc effectivement, on va parler des foyers dont on a déjà parlé hier, et plus particulièrement de la restructuration, c'est-à-dire du processus architectural et légal qui vise à transformer les foyers en résidences sociales. Donc en fait, c'est un processus qui a été mis en place à partir de 1994, donc à partir de la circulaire, qui vise justement, après plusieurs mobilisations citoyennes et militantes et mobilisations étatiques, pour transformer ces foyers à, d'un côté, définis de lieux de solidarité intergénérationnelle et internationale, et de l'autre côté, en particulier par les pouvoirs publics, montrés du doigt pour la grande vétusté des bâtiments, mais aussi une forme de peur et de soupçon de trafic de drogue, de trafic d'armes, qui était assez sous-jacente dans le discours des gestionnaires et dans le discours des médias. Donc cette restructuration, elle commence en 1997 et elle a comme objectif de transformer tous les foyers en résidences sociales. Donc c'est une transformation légale, comme je l'ai dit, qui l'a fait rentrer dans la norme du logement social, malgré plusieurs petites entorses par rapport à cette norme qui, en fait, la détache quand même du HLM. Et aussi une transformation architecturale, et c'est particulièrement à cette transformation architecturale qu'on va s'intéresser aujourd'hui. Et à la disparition, on en avait vaguement évoqué ça hier en discussion, à la disparition des salles de prière. Il y en avait déjà qui avaient disparu sous le format foyer de travailleurs migrants, mais là, la transformation en résidence sociale accélère et sanctionne, en fait, la disparition de la grande majorité des salles de prière. Donc je ne reviens pas vraiment sur le cadre du foyer, parce que je pense que ce n'est pas forcément quelque chose qui est inconnu de tous ici. Éventuellement, on pourra ouvrir en discussion s'il y a des questions, mais ça m'étonnerait que ça soit le cas. Donc juste pour présenter mon travail, c'est un travail plutôt ethnographique, dans trois résidences sociales en Ile-de-France, une dans le 12e arrondissement, une à Saint-Denis et une à Stein. Donc je vais revenir sur la question de la restructuration sur cette salle de prière. Donc qu'est-ce qu'en disent les textes? Donc qu'est-ce qu'en dit la circulaire, en fait, donc la circulaire du plan de traitement de 2002, et qu'est-ce qu'en disent les programmes architecturaux? Donc déjà, dans la circulaire, il y a une phrase qui part du principe dans une restructuration qu'il faut chercher les solutions tenant compte à la fois des attentes des résidents et des contraintes du bâti pour permettre l'équilibre financier de l'opération. Parce que c'est quand même une opération qui mobilise énormément de fonds et publics et... privé de l'association, et donc il y a cette recherche de l'équilibre financier. Et dans l'un des programmes architecturaux d'un des gestionnaires, j'ai vous cité certaines phrases qui ont attrait avec cette question de la salle de prière. Déjà, qui commence par: dans la plupart des foyers, faute de mosquées dans le quartier, la salle dite polyvalente est en réalité exclusivement réservée à l'exercice du culte musulman et accueille de très nombreux fidèles, notamment extérieur lors de la prière du vendredi, et ce, bien au-delà des effectifs admissibles par la réglementation ERP. Donc c'est une réglementation qui, lui, va limiter le nombre de personnes dans les salles. Donc dans le cadre de cette restructuration, le gestionnaire en question souligne que le rôle d'un foyer n'est pas de pallier l'insuffisance des lieux de culte, quels qu'ils soient. Ainsi, en opération neuve ou de desservant d'un site, qui en fait vise à la même chose, aucune salle de prière ne sera programmée. Dans le cas contraire, donc s'il y a un cas figure où la salle de prière est programmée, le maintien d'une salle de prière ne pourra être envisagé sous réserve qu'elle respecte la capacité d'accueil conforme à sa surface, et que cette surface, donc, et que cette salle soit systématiquement classée en ERP 5e catégorie, c'est-à-dire qu'elle ne pourra pas accueillir plus de 50 personnes. Et on est en général dans des résidences sociales qui... Bon, je ne vais pas faire de moyenne, mais celles qui sont assez importantes et qui correspondent à des foyers plutôt importants, c'est en général 200-300 personnes. Donc on est sur 50 personnes, ça ne recouvre même pas les besoins des résidents présents sur le site. On note également que la ville de Paris subordonne l'éventuel maintien d'une salle de prière à la condition qu'elle soit uniquement accessible depuis l'extérieur de la résidence, Donc elle ne soit en aucun cas accessible à l'intérieur de la résidence, qu'elle soit repérée en tant que salle de prière et non plus sous ce terme de salle polyvalente, et que sa location soit confiée par un bail à une association dûment constituée et qu'une convention définissant les droits et les obligations des parties soit signée. Les aménagements à l'intérieur de cette salle doivent être réservés au strict minimum, et que la localisation et les positionnements des accès à cette salle de culte n'interfèrent en aucune manière avec la vie de la résidence, et encore une fois qu'elle ne soit livrée qu'en fin de travaux. Donc on voit que le contexte légal est quand même assez strict et vise à une complexification autour de la présence de cette salle. Alors qu'en est-il sur les trois terrains que j'étudie dans le cadre de ma thèse? Alors sur le cas parisien, il y a quatre salles polyvalentes. Alors là, déjà, on voit que le terme de salle polyvalente est maintenu, dont une dédiée au culte. Donc, c'est une salle qui a été allouée au culte pendant les plans et pendant la construction du bâtiment, et qui a été déplacée le jour de l'ouverture et de l'inauguration du bâtiment de l'extérieur, donc donnant sur l'extérieur, à une salle à l'intérieur, en rez-de-jardin, donnant à la suite de la succession de deux escaliers. Donc là, par rapport au préfacte que je viens de vous dire, ça a été une transformation qui a justement été voulue pour l'éloigner de l'extérieur. Et c'était dans un contexte, en fait, l'ouverture a été un peu concomitante avec l'émergence de la prière de rue comme problème public dans les années 2010-2011. Et donc là, on a eu une volonté de recentrer la salle de prière à l'intérieur de la résidence pour limiter justement les accès par l'extérieur. Dans ma résidence dionysienne, alors, dans les plans originaux, il y avait une volonté d'une salle de culte qui, au fur et à mesure, s'est vue complètement dépossédée de la résidence parce qu'en fait, les travaux ont duré 10 ans et le redécompage foncier a réduit au maximum le territoire foncier sur lequel la résidence sociale pouvait être construite et la salle de prière a fini par disparaître. À ce temps, il y a eu... aucune volonté de construire de salle de culte, ni pendant les plans, ni à l'ouverture. Donc ce qui m'intéresse ici, c'est comment on va faire avec cette salle de culte, ou comment on va faire sans, et comment on va reconstruire des pratiques spatiales quotidiennes de culte. Je souligne ici qu'à la différence de la présentation de Mamadou Sissoko hier, on n'est pas dans des cas de résidence sociale issue de foyers de travailleurs migrants dits mixtes, c'est-à-dire que là, la majorité est à... La population est en très large majorité d'origine subsaharienne, de la vallée du fleuve Sénégal. Dans le cas de deux résidences sociales, c'est des populations soninké, l'une plutôt malienne et l'autre mauritanienne et malienne. Et dans la résidence de Stein, c'est une population majoritairement peul. La question de la mixité est en train d'arriver maintenant avec l'introduction de nouveaux publics, en fait, qui sont ciblés par la résidence sociale, mais ce n'était pas forcément le cas au début. Et donc, quels sont les usages de ces lieux et quelles sont les stratégies des résidents et plutôt des délégués des résidents, en fait, face à la transformation de ces résidences? Alors, il y a deux cas de figure assez symptomatiques dans les trois monographies que j'ai pu mener. Et alors, la plus importante, c'est celle que j'ai pu voir à Paris, qui va être une défense de la pratique du culte collectif, très frontale, militante, qui s'inscrit en fait dans des discours qui font référence en fait à la réappropriation des espaces comme une continuité des pratiques spatiales du foyer, comme une contribution au rayonnement de l'ancien foyer comme espace de culte. Donc ces discours, en particulier ceux de l'imam, font vraiment écho avec un processus de réislamisation dans les années 90 et surtout à l'importance de l'ouverture de la mosquée sur le quartier, c'est-à-dire que ça reste un lieu ouvert et que ça reste un lieu ouvert pour les non-résidents. C'est cependant cette ouverture sur le foyer qui en fait va entraîner de la part des gestionnaires et puis de la part de la préfecture en fait un contrôle des entrées et des sorties et des fréquentations de cette salle de culte qui va alors la sanctionner pour surutilisation ou surfréquentation et qui va finir par fermer les quatre salles polyvalentes à l'usage des résidents. Donc ça c'était il y a 2 ans. Une fermeture des sites qui s'est du coup entraînée dans une grève des loyers qui vient de se solder il y a quelques mois et qui a été organisée pour faire front justement contre ces gestionnaires et cette décision de la préfecture et dans l'objectif de réouvrir ces salles. Donc dans l'objectif de récupérer une salle de culte. Donc voyant qu'il y avait une impossibilité en fait de récupérer les salles sans contrepartie, on a vu un déplacement du discours des délégués d'une volonté d'une ouverture de la mosquée sur le quartier à plutôt comment dire, un renfermement à l'intérieur de la résidence sociale en disant que si réouverture il y avait, ce ne serait que pour les résidents et que dans l'enceinte du bâtiment. Donc on voit qu'il y a quand même un décalage en fait du discours, mais dans l'objectif de faire avec et de récupérer la salle. Dans le cas de la résidence dionysienne, où il n'y a pas de salle de culte ou pas de salle de culte prévue, là, on a vu une décision des différents délégués que j'ai pu rencontrer de refuser concrètement l'installation d'une salle de culte dans une petite salle de réunion qui était présente. Donc là, je me suis intéressée à en fait pourquoi choisir de faire complètement sans en fait salle de culte. Et déjà, il y avait cette question que la salle était mal conçue, trop longue et qu'elle ne permettait pas l'installation de tapis. Que la paroi en verre qui donnait sur la rue ne permettait pas, de cacher ou de protéger en fait du regard extérieur, et que la proximité avec l'entrée générale de la résidence ne pouvait pas permettre la bonne gestion de la salle pour éviter et l'entrée d'extérieur et les prières de rue. Donc là, on voit que risquant l'intrusion et architecturalement ne permettant pas la bonne pratique en bonne et due forme, aucun espace collectif ne va être attribué à la prière. Et donc c'est dans cette peur de perte de contrôle, mais également des conséquences fâcho-gestionnaires. Parce que c'est ça qui fait peur et c'est des conséquences qui peuvent être assez fortes pour les résidents. Donc on voit la construction en fait de bons et de mauvais critères pour une salle disponible qui permettent justement la justification de son investissement. Donc là je parle de la prise de décision des délégués, mais ce qui m'a intéressé aussi c'est toujours dans cette situation dionysienne, une histoire qui m'a été contée par les délégués. Et il me parlait justement de l'histoire d'un des résidents de cette nouvelle résidence qui venait prier avec ses gars. Donc dans cette configuration, ce qui m'a intéressé, c'est le processus en fait qui a permis de délégitimer la présence de cette personne-là qui, selon mes enquêtés, s'était fait imam tout seul. Donc on voit là que dans le discours, il y avait une délégitimation en fait de déjà sa pratique du culte ou de sa position en tant qu'imam, et qu'il y avait du coup une impossibilité pour lui d'avoir un marquage spatial de sa religion. Et donc on voit là que les décisions des délégués soulignent les enjeux de légitimité et de rapport de pouvoir dans la résidence en sous-tendant les rapports d'un légitime religieux pour permettre un ancrage spatial. Et ce qui me permet d'ouvrir sur la question de la terminologie des mots concernant cette mosquée. Et donc quand cet espace est permis, qu'il soit permis ou non en fonction des résidences, reste à savoir qui le pratique. Donc au-delà des confrontations qui semblent apparaître comme relatives à la confession ou la remise en question de ce qui fait lieu de culte ou ce qui fait un imam, certaines personnes vont revendiquer le terme de mosquée pour un espace alloué au culte, alors que d'autres, comme le cas d'un résident informel de la résidence de Stein, qui me disait ne plus descendre en bas, car déjà il y avait des problèmes de disputes avec les personnes qui y restaient, et qui venaient me dire « mais ici ce n'est pas important, ici ce n'est pas une mosquée, il y a deux mosquées plus loin, ici je ne viens pas prier, mon oncle y va, mais moi je ne descends plus ». Donc c'était vraiment une dévalorisation des lieux, qui apparaît dans le discours du délégué comme qui apparaît pourtant dans le discours des délégués comme une victoire par rapport au gestionnaire, c'est-à-dire d'avoir réussi à installer un espace de culte. Pour cette personne, il y avait une dévalorisation et un refus d'utiliser le terme de mosquée. Donc on voit bien qu'il y a une désapprobation et une non-légitimité du lieu à ses yeux qui se symbolise par le refus d'attribuer le titre de mosquée. Sur cette question de terme, je crois que je vais finir là-dessus. C'est tout l'enjeu en fait entre salle polyvalente, salle de prière et mosquée qui va du coup s'entrelacer dans des contextes particulièrement conflictuels et politiques. Bon là je vais revenir sur le cas de la résidence parisienne. On voit que sur les plans, les espaces sont nommés de salle polyvalente, qui en général va être le titre utilisé par les gestionnaires. Dans le quotidien, le titre utilisé pour qualifier cet espace par les résidents en général et même par le gérant de la résidence va être celui de salle de prière. Et il y a certains résidents qui vont s'attacher particulièrement à l'utilisation du titre de mosquée, comme par exemple l'imam, certains délégués et certains résidents. Et on voit que cette question, lors d'une réunion à la mairie, cette question de l'utilisation du terme de mosquée va poser un problème particulièrement important pour le voisinage, qui a organisé toute une association pour, faire part de tous les désagréments et toutes les nuisances qu'il semble avoir de par la présence de la résidence sociale. Et donc ils s'opposent, mais très farouchement en fait, à ce terme de mosquée, parce qu'elle justifierait son référencement dans un site qui s'appelle trouvetamosquée.com et qui permet en fait d'attribuer cette salle de culte à un rayonnement plus large, c'est-à-dire à l'extérieur de la résidence, et qui pourrait, je vais conclure, qui permettrait à des extérieurs du coup de localiser cet espace. Et donc on voyait à l'intérieur de cette réunion à la mairie une confrontation farouche à l'utilisation de ce terme qui du coup mettait pour les résidents en danger leur espace de vie qui pouvait justement être amené à avoir des flux plus ou moins importants de fidèles, en particulier le vendredi, et qui apparaissait aux yeux de ce collectif de résidents comme une nuisance extrême. Et donc on voit bien que la question de la terminologie a un enjeu particulier, en particulier dans des questions politiques assez tendues que traverse actuellement le monde des foyers. Mais quand même, à l'intérieur de la résidence, l'usage d'un terme plutôt que l'autre arrive à questionner l'enjeu de légitimité de l'espace de culte. Merci beaucoup.